7h30. Le journal Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un film au service de la justice, un film sur France Télécom qui n'aurait jamais dû sortir. Serge Moati avait en effet enregistré des salariés et les patrons de l'entreprise en pleine crise, des témoignages qui seront diffusés aujourd'hui au tribunal. Après l'acte 2 d'Emmanuel Macron, l'acte 2 de Brigitte Macron. La première dame multiplie les sorties médiatiques ces derniers temps, ou comment faire de la politique sans le dire, analyse dans ce journal. Dans l'actualité également, l'Iran et les États-Unis au bord du précipice. On a appris cette nuit que Donald Trump avait envisagé de bombarder des cibles de la République islamique avant de revenir en arrière. On parlera aussi des anti-charbons qui mettent la pression sur l'Allemagne. Des milliers d'activistes venus de toute l'Europe s'apprêtent à bloquer une mine dans l'ouest du pays. On parlera des vacances qui commencent bientôt, mais pas pour tout le monde, et du comeback de Mick Jagger aux États-Unis après son opération au cœur.
France Inter, faites la musique, je vous le disais il y a quelques instants, Jeanne Hadet, Clara Luciani sont les invités d'Ali Badou dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et c'est un document exceptionnel, Sébastien, qui sera aujourd'hui au cœur du procès de France Télécom.
Ce procès pour harcèlement moral qui a commencé il y a un mois et demi maintenant, les juges visionneront ce matin un film inédit, un film tourné en pleine crise des suicides pendant l'année 2009, réalisé par Serge Moati, au départ appelé pour faire un film d'entreprise. Le document ne sera jamais diffusé. La CFDT toutefois a réussi par le récupérer et a obtenu du tribunal de le faire diffuser. Aujourd'hui, notre reporter Sarah Guibaudot a pu le voir également, une plongée bouleversante dans une entreprise en pleine mutation où les patrons de l'époque, aujourd'hui poursuivis, assument totalement leur politique.
C'était avant l'été 2009. Didier Lombard, PDG d'alors de France Télécom, me propose de réaliser un film pour dire et montrer la vitalité et l'excellence d'un des plus grands groupes mondiaux.
Mais cet été marque un tournant. Je me suicide à cause de France Télécom, écrit Michel de Paris. Serge Moati rencontre ses salariés en souffrance ou poussés vers la sortie.
Bon, j'ai été mis ici au téléphone.
Vous avez combien d'années de boîte ?
33. J'ai une femme assistante sociale, je lui parle pas de mon travail. Parce que j'ai honte.
Pour Sylvie Topaloff, avocate de Sud, le film va rendre la crise plus concrète pour le tribunal.
Comme ça fait un mois et demi que l'on se pose 1000 questions, qu'est-ce que c'était que cette souffrance qui montait ? Tout d'un coup, on a une espèce de plongée, il y a 10 ans, au cœur même de l'entreprise.
Le film suit aussi les dirigeants.
Le sujet, c'est est-ce que vous êtes capable de faire de l'économique et de l'humain en même temps ?
Dans le train, Didier Lombard, toujours le sens de la formule malheureuse.
On a poussé le ballon un peu trop loin.
Mais il n'y a alors aucun déni, ce qui contraste avec son attitude au procès, estime Jonathan Cadeau, l'avocat de la CFDT.
Il y a une reconnaissance qu'ils n'ont pas géré pleinement la problématique humaine parce qu'il y avait l'économique, la stratégie, la nécessaire rentabilité de l'entreprise et un choix a été fait.
À l'automne 2009, Didier Lombard renonce à certaines mesures. À Cahors, des salariés sont touchés par la visite du patron, qualifié de gros ours. Ce film choc restitue aussi la complexité du rapport au travail.
Le reportage de Sarah Guibaudot.
7h34, Sébastien, 24 heures après la destruction d'un drone américain par l'armée iranienne, la tension est à son comble.
Le New York Times nous apprend en effet ce matin que Donald Trump a approuvé des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes avant toutefois de faire machine arrière. L'Iran de son côté affirme disposer de preuves irréfutables montrant que le drone américain abattu était bien entré dans son espace aérien, contrairement à ce qu'affirme Washington. À l'étranger encore, ils seront des milliers aujourd'hui à se donner rendez-vous en Allemagne pour dire non à l'exploitation du charbon. 5000 jeunes venus de l'Europe entière, direction la Ruhr, cette région minière qui fait de l'Allemagne le plus gros émetteur de dioxyde de carbone en Europe. Ces militants, formés à la désobéissance civile, envisagent aujourd'hui des opérations de blocage des mines. Reportage de notre correspondant sur place, Ludovic Piétenu.
Elle était déjà là l'an dernier. Marfacus, c'est son pseudo, 25 qui vient de région parisienne, a déjà tenu 23 heures sur des rails menant à la mine, après avoir franchi plusieurs cordons de police, traversé une autoroute et marché pendant 10 heures.
C'est assez fatigant comme façon de marcher parce qu'il faut rester très attentif tout le temps à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe, à tous les gestes, avec nos sacs.
Il faut cette année avoir de quoi tenir 48 heures, nourriture, eau, couverture de survie, mais avant l'action, passage obligé pour tous hier après-midi par des ateliers de formation.
Dans le groupe, on va être 1000, donc il faut que l'information circule bien. Donc il y a des gestes, il y a des cris qu'il faut suivre. We are unstoppable.
Cette jeune Française avoue une certaine lassitude pour les manifestations plus classiques. Avec la désobéissance civile et une opération de cette envergure, elle s'y retrouve davantage.
On vient de toute l'Europe pour le même but, ici très très jeune. C'est vraiment très porteur aussi en se disant il y a une reprise du flambeau par les jeunes.
Et s'ils vont se tenir les uns aux côtés des autres, Marfacus, comme tous les autres participants, ne connaîtront à aucun moment de leur progression leur objectif, sauf à la toute fin pour ceux qui y parviendront. Dans le bassin minier de la Roure, Ludovic Piétonu, France Inter.
Et puis ajoutons que les 28 dirigeants de l'Union européenne hier ont échoué à se mettre d'accord sur un nouvel objectif plus ambitieux pour que l'Europe devienne neutre en émissions de carbone. Plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, voulaient fixer l'échéance à 2050. Un bras de fer perdu face au refus de plusieurs pays d'Europe de l'Est et notamment de la Pologne, très grande consommatrice d'énergie fossile. L'Europe dans l'impasse aussi sur le choix des futurs dirigeants. Impossible hier de se mettre d'accord sur le futur président de la Commission. Rendez-vous le 30 juin prochain. Et puis toujours en Europe, des scènes d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre hier devant le Parlement géorgien à Tbilissi. 10 000 personnes rassemblées pour dénoncer la présence dans l'hémicycle d'un député russe. La Russie responsable d'une guerre contre la Géorgie, c'était en 2008. La politique française, maintenant avec une première dame qui cherche de plus en plus la lumière médiatique. Brigitte Macron, très discrète en début de mandat, puis pendant la crise des Gilets jaunes, mais qui depuis quelques jours ne cesse de voyager dans toute la France. D'abord à Marseille avec le maire Jean-Claude Gaudin, puis à Lyon avec Gérard Collomb. Et enfin hier, première interview dans un grand média. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Brigitte Macron, très visible donc, mais qui se défend de faire de la politique.
Alors la semaine passée, Emmanuel Macron a évoqué un changement de méthode gouvernementale. Humanisme et proximité. Eh bien c'est à se demander si finalement ce changement n'avait pas un prénom. Brigitte, pour son épouse, c'est aussi un peu l'acte 2 de son quinquennat. Un retour en grâce, un peu comme Bernadette Chirac, longuement mise à l'écart durant le premier septennat de son mari, jusqu'à ce que le président se rende compte de sa popularité et l'envoie au front pour les municipales de 2001. Tiens, l'entourage de Brigitte Macron nuance, pas de comparaison par exemple, elle n'est pas au premier rang des meetings comme Bernadette. Néanmoins, la première dame, engagée dans de nombreuses causes, éducation, santé, handicap, joue sa carte, celle de la proximité. Délestée de ceux, les fameux mormons qui autour du président et qui sont maintenant partis, considéraient qu'il ne fallait pas qu'elle monte en première ligne. Elle leur a adressé quelques amabilités, comme lorsqu'elle explique qu'Emmanuel Macron écrit lui-même ses discours, message pour l'ex-plume Sylvain Faure, qui en revendiquer la paternité. Une ancienne première dame, Valérie Trierweiler, se considérait comme l'atout cœur du président. Brigitte Macron, elle, pourrait bien redevenir un atout politique. Il aurait tort de ne pas s'en servir, glisse un proche du couple.
Cyril Graziani, merci du service politique de France Inter. Et puis ajoutons ces révélations hier dans le magazine envoyé spécial de France 2. Michel Marchand, alias Mimi, patronne de l'agence photo Best Image et proche, très proche du couple Macron, aurait hébergé Alexandre Benalla à l'été 2018, au moment même de la crise avec l'Élysée, confession de l'intéressé lui-même.
Il est 7h39, 2201 euros, c'est le budget moyen, Sébastien, que les Français consacreront à leurs vacances cet été.
Et puis 69% des Français ont l'intention de partir, un record en Europe, mais ça fait toujours près d'un tiers de la population qui reste à la maison, pas toujours par choix. Un collectif d'associations lance donc l'opération En Vacances saison 2. Localement, des associations aident en effet des familles défavorisés à partir en vacances, exemple à Fresnes dans le Val-de-Marne. Sébastien Sabiron.
Auxiliaire scolaire au chômage, Loubna n'est pas partie en vacances depuis 3 ans. Difficile l'été d'occuper sa fille de 5 ans qu'elle élève seule.
Si j'arrive à payer, c'est un cinéma par-ci. Le parc, c'est dans nos moyens. Pour passer une après-midi, faire un petit goûter au parc, c'est tout ce qu'on peut avoir l'été.
Cette année, grâce au centre socio-culturel de Fresnes, Loubna et sa fille passeront 2 semaines en Haute-Savoie avec 10 autres familles. Un séjour qu'elle prépare depuis 9 mois en collectant des fonds et en se réunissant toutes les 2 semaines.
Dans les réunions, on se dit qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens autant que moi. Ça nous pousse à nous dépasser, de chercher du travail, de dire qu'on n'est pas les seuls qui ont des difficultés.
Car au-delà du bien-être, les vacances sont aussi un levier d'insertion, encourage le sentiment d'appartenance à la société. Farida Berkan, coordinatrice au centre socio-culturel.
Ce que je constate au retour des vacances, c'est que toutes les familles, en fait, elles ont un regain de confiance en elles. Elles se disent, je suis capable de mettre en place un projet. C'est pour ça qu'elles se mettent à faire des recherches de formation, d'emploi, parce qu'elles se disent, ben voilà, je suis capable.
Et d'ajouter que de son point de vue, les aides financières attribuées par la CAF oublient trop souvent les travailleurs pauvres. 86% des cadres supérieurs partent en vacances contre 47% des ouvriers.
Sébastien Sabiron a noté cette étude étonnante publiée dans Science. Une équipe de chercheurs a testé le civisme de milliers de personnes dans le monde entier. 17 000 portefeuilles déposés un peu partout, hôtels, banques, commissariats, dans 40 pays différents. Eh bien, au palmarès des pays les plus honnêtes, la Suisse et les nations scandinaves, Chine, Maroc, Pérou et Kazakhstan ferment le classement. On termine en musique avec aujourd'hui la fête de la musique, comme vous le savez. Direction Chicago, aux États-Unis, où les Rolling Stones entament ce soir leur tournée américaine. Cette série de concerts avait dû être reportée à cause des ennuis de santé de Mick Jagger, qui en avril avait subi une petite opération cardiaque. Il a 75 ans. Jagger et ses compères remontent donc sur scène pour la première fois ce soir. Et des fans du monde entier se sont donné rendez-vous à Chicago. Sur place, Grégory Phillips.
Il a du mal à compter le nombre exact de fois où il a vu les Rolling Stones en concert.
Entre 35 et 40 concerts des Rolling Stones à plusieurs endroits dans le monde.
Yves Lavoie est un Québécois de 59 ans, jeune retraité, et sa première fois, c'était en 1978 à New York.
L'été de mes 17 ou 18 ans, j'ai demandé à ma mère la permission d'aller à New York avec des amis voir les Rolling Stones. Ils n'étaient pas autorisés de venir au Canada à l'époque. C'était mon premier voyage de ma vie. J'ai des frissons juste à y penser.
En apprenant que la tournée américaine était décalée, Yves a donc pris des billets pour Chicago. Et il est aujourd'hui persuadé que Mick Jagger a retrouvé toute sa forme. Comme sur cette vidéo des répétitions publiées il y a un mois sur le compte Instagram du chanteur et où on le voit danser comme un jeune homme.
Il a toujours été quelqu'un en grande santé physique. Je pense qu'il est un exemple à suivre à 75 ans quand même, c'est assez extraordinaire. Je me dis que c'est une opportunité de voir des légendes vivantes sur scène.
Au milieu des 55 000 spectateurs ce soir au Soldier Field, Yves espère que les Rolling Stones le surprendront encore une fois et qu'ils rendront hommage à la musique blues de Chicago. Chicago, Grégory Phillips, France Inter.
Voilà, les Stones à Chicago, il reste des places, Nicolas, il est encore temps.
Merci Sébastien Legénie. Nouveau point route avec Marion Bargiaki.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
Et des difficultés sur l'A1, Marion.
Oui, après un accident dans le Pas-de-Calais à hauteur de Libercourt, direction Lille, comptez plus d'une heure de ralentissement en amont depuis Hénin-Beaumont. Et puis prudence aussi dans les Bouches-du-Rhône, une voiture et un poids lourd viennent de se percuter sur l'A7, direction Lyon, à hauteur de Lançon de Provence, et la route est complètement fermée.